La circulation, présentée par la laiterie Charlevoix, le plus grand choix de fromage de la région. Pour des conseils fins comme leur fromage, passez voir laiterie Charlevoix au Grand Marché de Québec.
Gravel dans le retour.
Dieu m'a fait une révélation.
Denis nous a dit qu'elle a travaillé vraiment fort cette saison-ci.
Il m'a dit, ne fais pas faire à autrui ce que tu peux faire toi-même.
Ben, hâte de voir combien de temps ça va durer. Gravel.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouveau matériel de System of a Down. Faut pas trop espérer, les gars sont tous rendus ailleurs. Le chanteur Serge Tankian, qui lui, a lancé du nouveau matériel dans les derniers jours.
Ils ont fait quoi, deux shows cet été du côté de San Francisco? J'ai l'impression qu'ils choisissent à la pièce quand ça leur tente, puis après deux shows, ils se tapent ses nerfs, puis ils se voient.
Ouais, pas trop loin de la maison pour les shows. Ils avaient lancé deux nouvelles tunes qui sont un petit peu passées sous le radar. C'était pour ramasser des fonds pour une bonne cause. Mais pour le reste, je pense que les gars ont convenu, pour l'essentiel, qu'ils n'étaient plus capables de travailler ensemble et c'est bien dommage. Comment ça se passe dans la circulation, Audrey?
Ça commence à ralentir si vous êtes sur la capitale, direction ouest. Entre Henri IV et Robert Bourassa, il y a un certain ralentissement. Direction ouest, ça se passe entre Bourg-Royal et Laurentienne en ce moment. Robert Bourassa, direction nord, entre Wilfrid-Amélie et la capitale, il y a quelques problèmes. Ça ralentit aussi l'entrée du pont Père-Laporte, direction sud. Si vous êtes sur Henri IV, à partir à peu près de chemin Sainte-Foy, il y a quelques ralentissements à prévoir. Puis pour ce qui est de la 20, direction ouest, ça se concentre à la hauteur de Taniata pour le moment.
Dans un monde où il y a énormément de négativité, c'est toujours le fun d'avoir de vos nouvelles quand, je sais pas, vous faites un beau trip, un beau voyage ou on vous fait gagner un concours.
Oh, jalouse, là.
Ça vient juste de rentrer. Salut, la belle gang de Boulevard. Je veux simplement vous remercier. On avait gagné des billets pour le spectacle de Kings of Leon qui était hier.
Ouais.
Quel show incroyable. On a vraiment passé une belle soirée. Merci beaucoup. Kings of Leon qui était du côté de Montréal à...
C'était à la Place Belle à Laval qui donnait leur spectacle. Moi, j'avais regardé pour aller les voir. Hartford en fin de semaine, les billets étaient tellement chers. Là.
Parlant de billets excessivement chers, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont essayés pour la portion nord-américaine de la tournée Réunion d'Oasis.
Audrey
s'est essayé, Tommy s'est essayé. Il y a bien du monde qui ont essayé de mettre la main sur des billets, puis ça n'a pas mordu beaucoup.
Tu sais, on avait deux options parce qu'on avait parlé avec Tommy, puis on s'était dit, regarde, si jamais vous autres vous rentrez, puis vous avez une opportunité, au pire, prenez-les, on se rembourse, on s'arrange, tu sais. Puis Tommy avait quand même une bonne avance, nous autres, lui était, je pense,
23.
Oui, puis la dernière fois que je l'avais vu, il était rendu à comme 12 000, quelque chose comme ça. Nous autres, on était comme 48 000, fait qu'on se dit on rentrera jamais. Puis même lui n'a pas réussi à avoir ses billets.
Fait que même pour la portion nord-américaine où Oasis a pas autant marché fort que du côté de l'Europe, les billets se sont envolés rapidement.
Fait que je vous enverrai des photos puis des vidéos.
On va les attendre.
On va les voir à Londres, tabarnouche de chanceuse. je lance une bouteille à la mer. Est-ce que il y a des gens dans les dernières heures qui se sont fait frauder leur carte de crédit. Et je rajoute cette parenthèse, est-ce qu'il y en a qui étaient au Centre Vidéotron hier soir et qui se sont fait pirater leur carte de crédit ou qui ont eu un avis de fraude dans les dernières heures? Il semblerait qu'il y a un nombre important d'appels qui congestionnent présentement le service de fraude de Desjardins.
Ta carte de crédit, est-ce qu'elle est dans un portefeuille où t'es protégé? C'est l'espèce de technologie, je pense que c'est NFC le terme. Là.
J'en ai aucune idée.
Bon, OK.
T'as des applications aussi pour t'aider à protéger là, tes cartes là, sur ton cell?
J'en ai aucune idée.
Ben, en fait, je ne savais pas avant tantôt, c'est notre technicien JS qui m'a dit « Tu devrais vraiment t'installer ça. » Puis je te commence pas à payer comme idée.
Ma carte est dans mon portefeuille, comme d'habitude, comme tout le monde ou à peu près.
C'est
là.
Parce que les cartes sans contact, il y a des fraudeurs qui ont une capacité de juste s'approcher de toi puis d'être capable de prendre les informations puis de cloner ta carte. Je te dis pas que c'est ça qui est arrivé. Mais on va voir le 418-971-1021 sur le texto si vous autres vous faites aussi partie des gens. Ça débordait les appels que tu as dit?
Oui, oui. Il y a un nombre, il y a un délai d'attente qui est entre 45 minutes et une heure. Pour être capable de parler à quelqu'un. Au service de fraude, habituellement, c'est pas mal instantané, mais il y a beaucoup de monde qui ont beaucoup de problèmes en même temps. Fait que je tends ça, je lance l'appel d'un coup qu'on aurait tous ou qu'on aurait été nombreux à vivre sensiblement la même chose.
C'est ta carte physique que tu as utilisée, je pensais, c'était avec un PayPass de téléphone.
Non.
Ouais.
Fait que à surveiller. On va voir si on a du retour.
C'est RFID, la technologie pour protéger. Merci beaucoup à tous ceux qui textent. Tu peux t'acheter un portefeuille, faites demain.
Hey, il est 15h28. Si vous êtes des habitués de Gravel dans le retour, vous le savez, le vendredi, on a toujours une belle discussion de brou avec Émilie du Chaloux Grand Marché, présentée par les trois chaloux de la grande région de Québec. Émilie est du côté de Singapour. Pauvre elle!
Singapour? Non, Amsterdam.
Ah, même coin Amsterdam, pauvre elle.
Hein? Dans les deux cas. Ouais.
Tant qu'ils sont pas ici, hein, on peut les jalouser un petit peu. Par contre... On a un Moses de beaux sujets à aborder par rapport à la bière aujourd'hui parce qu'on va parler d'assemblage et j'imagine qu'on va parler de la chimie et de l'art de faire de la bière d'exception. Et on a la chance d'avoir en studio avec nous autres Greg Lavoie, qui est maître chai, Audrey?
Oui, c'est un maître de chai de la brasserie Le Folle.
Maître de chai de la brasserie Le Folle. Greg, salut, bienvenue à Boulevard.
Bien, merci.
Comment ça va?
Ça va très bien.
C'est quoi un maître de chai?
Maître déchet, mais pas maître déchet.
Ouais, c'est pas yard non plus, ça. Hein?
Maître déchet, dans le fond, c'est celui qui tend à l'élevage d'alcool en baril.
OK.
Fait que dans les, ça vient du domaine du vin. C'est dans le fond, dans les places où il y a vraiment, vraiment beaucoup de barils. On va engager une personne qui va s'occuper de l'entretien, les assemblages, puis c'est ça.
Êtes-vous beaucoup à faire ce job-là? Parce que j'avais jamais entendu parler de ce terme-là, on dirait de ce métier-là.
Ouais, c'est obscur. Je pense qu'à, tu sais, au Québec, on ne doit pas être beaucoup. Là. Il doit en avoir peut-être 5 ou... Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça que je disais tantôt. Il y a beaucoup de brasseries qui ont des barils, mais il n'y en a pas assez pour justifier, mettons, comme un poste que c'est juste ça. Fait que je sais que la souche en a quand même donc beaucoup de barils. Je pense qu'il y a une personne qui tient à ça. Il y a Trou du Diable aussi qui en a. Okay. Mais c'est ça, c'est quand même...
Parce que les barils, on est pas mal plus habitués d'en entendre parler quand on va parler de spiritueux, quand on va parler de vin. C'est quoi la formation pour devenir maître de chai?
Moi, je suis devenu parce qu'il y avait l'opportunité. Je sais même pas, je pense pas qu'il y ait de formation, en tout cas au Québec, pour ça. Chez Archibald, dans le fond, moi, j'ai commencé en 2015. J'ai été comme assistant brasseur à brasseur. Mm-hmm. Puis là, le propriétaire, que lui, il voulait avoir... il a visité, je pense, Goose Island, le chai de Goose Island.
Oui.
Puis les autres, ils ont comme 1000 barils. Puis lui, il est comme tombé en amour. Puis il s'est dit, on veut avoir l'équivalent canadien comme de Goose Island. Fait qu'il voulait créer un chai. Dès que ça a été comme mis sur les rails, moi, je voulais vraiment être en charge de ça. Fait que j'ai comme... c'est moi qui ai commencé le projet avec le maître brasseur à l'époque.
OK.
Puis qu'est-ce que, mettons, tu fais au quotidien? Mettons, journée typique, là.
journée typique.
J'essaie de comprendre, je suis pas sûr encore.
Le matin, mettons, je rentre, puis je regarde s'il y a pas les bouchons, les bungs, qui ont tombé du baril, parce que des fois, ça arrive que la pression augmente. Fait que ça arrive que pendant la nuit, il y a un bung qui s'en va, puis idéalement, il faudrait jamais que la bière ait contact avec l'oxygène,
mm-hmm.
pour des raisons de salubrité, mais pour des raisons d'oxydation aussi.
Oui.
Fait que là, j'arrive le matin, je regarde s'il y a pas de bung à terre, je fais, parce que c'est juste inspection visuelle des barils. Puis après ça, ben ça dépend de ce que j'ai à faire. Là. Ça peut être remplir, si j'ai une bière qui vient de faire de fermenter, remplir des barils vides, vider des barils pleins pour en embouteiller.
Hmm. Comment cette science-là fonctionne? Premièrement, est-ce que c'est une science? Deuxièmement, est-ce que c'est par essai-erreur qu'on finit par trouver les bons assemblages ou les bonnes associations? Comment ça fonctionne?
Pour nous, dans le fond, nous, chez Le Folle, on fait juste des bières barriquées puis sauvages.
Oui.
Fait que, ben à la fin, quand on a un projet d'une bière, quand on arrive pour l'embouteiller, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va goûter... pour moi, une bière, c'est 4 barils. Ça fait à peu près 800 litres. Puis pour nous, c'est une bonne batch de bière.
Le Folle, vous faites que des bières d'exception. Vous en faites pas des tonnes.
Non, c'est ça. C'est
puis
ça.
C'est vraiment... Quand vous voulez, mettons, impressionner la visite, là, puis que vous en traînez une dans le temps des fêtes, là, c'est ce genre de produit-là, c'est ça? Hein?
Oui, c'est ça. Fait que là, à la fin, dans le fond, quand on a fini le projet, mm-hmm. là, on va goûter à nos 4 barils. Mais ça se peut aussi que la batch avec les 4 barils soit pas notre goût. Fait que là, on va chercher à aller peut-être enlever un baril pour en rajouter un autre d'une autre batch,
okay.
pour rajouter de l'acidité, rajouter du sauvage ou genre équilibré. Ce qui est le fun avec cette formule-là, c'est qu'on peut aller pas mal plus loin côté goût qu'avec une bière traditionnelle où ce qu'on fait juste fermenter une fois dans une cuve. T'sais, c'est rare qu'on mélange à la fin.
Est-ce qu'on se trompe souvent?
Là, je peux plus me tromper.
Mais OK. C'est sûr que t'as plus ce luxe-là.
Ben, je peux plus. Là, c'est mon projet. Puis, j'ai plus le droit. Fait que là, je fais des choses que... Je dirais que je suis comme confortable de faire parce que j'ai pas envie de... Mais ça arrive. Ça arrive des fois que ça, c'est pas comme tu voulais. Là.
Tu t'en rends compte à quel moment? Es-tu trop tard à ce moment-là ou il y a moyen
c'est
de revirer le navire?
On y goûte tout le long du processus. On essaie d'y goûter. J'essaie de goûter au baril au moins une fois par mois ou deux mois pour voir l'évolution, pour pas justement que ce soit trop tard ou pas que ça soit comme on voulait pas que ça soit ça.
Mm-hmm. C'est-tu un travail de collaboration, j'imagine, avec un brasseur? Puis chez Le Folle, vous n'êtes pas nombreux. Raconte-nous un peu comment ce projet-là a décollé. Là.
Yes, là, on est trois. Je suis avec Éléonore puis Paolo. Paolo, qui est le très célèbre brasseur de l'Emporium.
Et, oui.
Brasseur et propriétaire de l'Emporium, il y a ça quand je dis ça, fait que j'en profite. Mais chez Le Folle, on n'a pas de système de brassage. Fait que officiellement, on achète des brassins à l'Emporium.
Fait que, OK.
On fait les recettes. Moi et Paolo, on fait les recettes ensemble. On se parle de qu'est-ce qu'on voudrait faire. On achète des barils en conséquence aussi du projet qu'on a. Puis le matin, mettons, d'une brasse, c'est Paolo commence le brassage. Moi, je lave une cuve. Après ça, je m'envoie là-bas en camion. On remplit la cuve de mou, puis je la ramène chez Le Folle pour faire fermenter. Puis après ça, mettre en barrique pour la deuxième fermentation.
Dans un monde de grosses microbrasseries, parce que c'est ce que c'est devenu, la province de Québec, veut pas. On est passé de pas de microbrasseries à de très grosses microbrasseries. On dirait qu'on ramène le
micro, finalement.
On ramène le micro dans la brasserie avec un projet comme celui-là.
Hein? Oui, exactement, exactement. On veut que ça reste petit, puis on veut que ça reste comme spécial d'en avoir aussi. Puis on va sûrement en refaire aussi. Toutes nos bouteilles sont millésimées.
Oui.
Fait qu'on va sûrement en refaire aussi à chaque année. Pas de toutes, mais certaines affaires, on va en refaire pour que les gens puissent avoir des verticales, là, pour acheter chaque année, pour voir comment ils évoluent.
Des verticales, ça, c'est justement, vous achetez une bière en 2023, vous achetez la même bière en 2024 et en 2025, puis après ça, vous êtes capable de comparer le produit.
Pour savoir c'est quoi le top là, ouais. du vieillissement, finalement.
Essentiellement, c'est toutes des bières qu'on est capable de faire vieillir, que vous rendez disponible.
Oui, c'est ça. À date, tout ce qu'on a fait, c'est soit des tests que j'ai fait avant, puis je suis capable d'assurer, mettons, comme à peu près 3-4 ans. Mm-hmm. Je sais qu'après 3 ans, d'habitude, ils sont à leur pic.
OK.
Puis là, c'est sûr qu'avec le temps, en général, le goût s'estompe, tranquillement, pas vite. Fait qu'ils sont moins goûteuses, là, avec le temps.
Tu nous as amené des choses à goûter, mais je pense que tu vas nous faire une expérience aussi. Avec quoi tu veux commencer, là?
Bien, vu qu'il n'y a pas beaucoup de maîtres de chais, je me suis dit que c'est quand même intéressant de faire goûter littéralement qu'est-ce que je fais, là,
oui.
finalement. Fait que ce que je vous ai amené, c'est deux barriques, deux sortes de bières complètement différentes,
okay.
qui sont, à mon avis, individuellement, pas vraiment intéressantes à faire tout seul.
OK.
Surtout celle de gauche, celle qui est plus pâle, là, qui est comme... moi, j'appelle ça une bière de coupage. Une bière de coupage, c'est comme pour venir diluer un blend.
Okay.
Pour venir comme rapporter quelque chose.
Oui.
Puis celle de gauche, elle est comme assez fruitée, peu sauvage. Celle de droite, celle de gauche est assez sauvage puis acide. Celle de droite est assez fruitée, mais elle manque comme de caractère.
Fait que ça, c'est deux bières qui sont complètement indépendantes, qui sont brassées de façon indépendante.
Des barriques différentes, okay. des souches de levure aussi complètement différentes, mais ensemble, ça fait quelque chose de vraiment intéressant, mais individuellement, sont comme, c'est ça, un peu comme, je trouve, ennuyantes. Mais si on goûte ça, la première, celle de gauche, qui est comme un peu plus pâle.
À l'odeur, je trouvais que tu exagérais pour celle de gauche parce que je trouvais qu'elle sentait vraiment bon, mais au goût, je comprends ce que tu veux dire.
C'est plus vide, on
c'est vrai, à l'odeur, elle avait une odeur très forte, puis ouais. au goût, c'est un peu flat.
Oui, flat, puis ça, dans le fond, elle va aller chercher, elle va donner une acidité, puis elle va donner aussi au nez du sauvage à des bières qui n'en ont pas.
Okay.
C'est comme l'espèce d'odeur de foin, là, puis de ferme. Là. Celle-là, il l'a beaucoup, mais au goût, comme tu vous dis, c'est comme un peu plate. Puis celle de droite, ben ça, elle est assez complexe, elle est assez fruitée,
oui.
elle est pleine aussi. Mm-hmm. Sauf qu'il manque, à mon avis, il manque d'acidité, puis le côté sauvage.
Parce qu'elle
aussi.
A le corps, okay. mais elle n'a pas le petit côté, le petit kick à l'intérieur.
Oui, oui, le petit côté vineux acide.
Fait que vous autres, vous avez le palais assez développé, puis la science assez infuse pour dire, j'ai cette bière-là à gauche, il manque ça, puis ça, elle a cette force-là. Et j'ai cette bière-là à droite qui a cette faiblesse-là et cette force-là. Si je mélange les deux... je tombe sur un bullseye.
Ouais, c'est pas mal meilleur, en tout cas. Tu allais comprendre qu'il y a des choses qui s'entrecroisent, puis ça fait comme quelque chose qui est vraiment plus buvable, qu'à mon avis, ça ferait quelque chose qui serait intéressant.
On les mélange-tu?
Oui, vous mettez...
On fait ça, on verse
on mélange nos deux verres.
50-50? Okay.
50-50.
Arrête okay. donc, toi.
On y va.
On fait de la chimie.
Ça, c'est quelque chose
que... Hey, check, Audrey, je suis maître de chair.
C'est-tu quelque chose ça, que tu peux faire à la maison? Mettons, tu sais, qu'on va chez Chaloux et on demande deux bières. Oh. Mais je ne vais pas dire deux bières plates, c'est un peu poche pour une...
Deux bières qui peuvent être complémentaires,
exactement,
mettons,
c'est mieux dit, merci, pour faire ces mélanges-là. Ou
ça, c'est... dans des dégustations de brasseurs, c'est des choses qui se font en fin de soirée. Là.
Ah ouais?
Il y a beaucoup de bières qui restent, puis là, on fait comme, ah, ça, avec ça, ça serait bon. On assemble, on dit que c'est des assemblages, mais tu sais, oui, vous pouvez le faire. T'sais. C'est certain que si vous avez justement une bière vraiment acide, fruitée, vous pouvez l'assembler avec quelque chose, mettons, au chocolat, là. Ça pourrait quand même faire...
Est-ce que je vois beaucoup de bières d'assemblage. Est-ce que c'est toujours fait de cette façon-là ou des fois, comment je dirais ça, là, de façon...
C'est un accident?
Des fois, on prend les restants puis on essaye de faire quelque chose qui se tient. Est-ce que...
Je connais pas les manières de faire des autres, mais nous, on fait pas ça.
c'est jamais au hasard, mais... c'est jamais à l'aveugle, c'est pas... c'est calculé.
Ça a toujours un but.
La différence quand tout ça est mixé, c'est flagrant.
Ben oui, ben oui.
Ça fait quelque chose ça, de buvable que justement, mm-hmm. celle qui est assez goûteuse, qui était à droite, justement, elle elle devient comme plus légère, mais elle prend de la richesse.
Oui, je trouve ça fascinant. Puis en même temps, moi, c'est pas le genre... J'adore les produits, j'adore trouver les saveurs du produit, mais quand on commence à parler d'assemblage puis de dire tel type de bière, on va l'essayer avec tel type de bière, puis là, on n'a même pas parlé de proportion encore, non, parce que ça, c'est l'autre chose. Là, on vient de prendre la moitié d'un verre, le mélanger dans l'autre moitié d'un verre, mais là, vous autres, il faut que vous alliez plus loin, c'est de dire celle-là, ça en prend peut-être 10 % puis celle-là, on va en prendre 80 % puis on va aller chercher un 10 % ailleurs.
Ouais,
c'est
exact,
bien ça?
Exact.
Hey, ça commence à être pété en tabarnouche.
Ouais, ouais, vraiment.
Y a-t-il des types de bières qui peuvent pas pantoute à l'ensemble?
Je sais pas. Ça va vraiment comme au goût, je pense. Mais tu sais, comme il y en a une qu'on a faite aux framboises, qu'on a mis une dose comme exagérée de framboises. On est allé chercher des framboises sur l'île d'Orléans,
oui,
très fraîches, mais on a comme mis plus que dans une bière normale pour que ça goûte vraiment plus, en ayant l'idée de la diluer à la fin. Fait qu'on avait 3 barils, puis on pensait rajouter 1 baril, mais à la fin, on s'est rendu compte qu'elle était vraiment bonne comme ça.
Elle n'avait pas besoin
mais
de rien
assez, d'autre. Elle était exagérée, mais on a essayé de la diluer avec tout ce qu'on avait. Tu sais, on a essayé de tout. On a essayé comme avec, on a une pipette, on rajoute comme 10 millilitres de toutes les barils qu'on avait,
ouais,
pour finalement se rendre compte que non, ça vaudrait vraiment la peine qu'on la laisse comme ça. Puis ça fait une bière qui est très, très, très framboise, mais... C'était quand même vraiment bon.
C'est comme ça que vous l'avez sorti.
C'est ça.
Présentement, dans les produits que vous avez lancés, vous êtes rendu à quoi? Une quinzaine de produits au total que tu
on
me disais
a la
tout à l'heure?
15e qui n'est pas sorti encore, mais okay, là, on a 14 sur les tablettes. 14 lots, puis la 15e, elle va s'en venir dans les prochaines semaines.
Je sais que ça part rapidement parce que c'est des lots minuscules que vous faites par rapport à bien d'autres microbrasseries. Puis je sais que très rapidement, le mot s'est passé chez les amateurs de bière. Hey, le Folle, ils font quelque chose de vraiment spécial, de vraiment particulier, qui vaut le détour. Ouais.
Les premiers lots qu'on a faits comme en novembre passé, je pense plus qu'il en reste bien nulle part. C'est là, comme facilement, je pense qu'on peut trouver les 5 derniers.
Mm-hmm.
Et, c'est ça, ça part.
Je voulais en faire vieillir de ce lot-là, puis j'ai pas toffé. C'est des choses qui arrivent.
C'est le plus difficile, ça.
Ouais, c'est ça.
Tu nous as apporté un produit qui, lui, est déjà fait, déjà complet.
Oui, c'est ça. D'ailleurs, je ne vous ai pas averti, mais ce que je vous ai fait goûter, c'est comme... j'appelle ça du jus de baril, là. C'est comme tiède, non carbonaté.
Uh-huh.
C'est pas mal plus plate à boire, là, mais vous comprenez en tout cas que le produit fini, il va être froid et
ben oui,
pétillant.
Ben oui. Mais c'est intéressant comme expérience, par exemple, parce qu'au niveau du goût, t'es déjoué.
J'essaie de la nuit, hein?
Oui, j'essaie de retrouver les deux produits que j'ai goûtés avant que je les mélange, puis je suis pas nécessairement capable. Mm. Mais je sais que j'aime beaucoup plus le 3 que la 1 puis la 2.
Il était fait pour s'additionner.
Ouais. Celle que je vous ai amenée, c'est la dernière qu'on a sortie. C'est une IPA des Flandres.
Oh!
Elle est très florale au nez, là.
Ouais. Oui, vraiment, vraiment.
En partant, moi, tu viens de me déculoter. Ça se peut, ça, une IPA des Flandres? Moi, j'entends juste parler de rouge des Flandres.
Ce qui arrive, on l'a appelé comme ça parce que c'est une IPA de style belge.
Okay.
Dans le fond, il y a de la levure primaire, c'est une levure belge. Sauf qu'on a pris un houblon français puis un houblon allemand aussi.
Okay.
Là, si tu regardes la région des Flandres, elle s'étend un peu. Fait que là, on s'est dit que ça serait quand même beau par rapport à ce qu'on a mis dedans. On a essayé de la garder quand même authentique européenne, mais c'était pas juste belge.
Mmh. Oh, Greg, faut que je te dise que moi, dans la vie, je déteste les IPA. Puis quand tu as dit IPA, je me suis dit « Ah, chenoute! » mais pour vrai, j'aurais jamais pu dire, en fait, que c'était une IPA. Il y a comme pas l'espèce d'amertume tannante qu'on retrouve,
on l'a
je trouve,
fait très, très douce, très légère.
Ah,
ça a été élevé en fût de chardonnay.
Vraiment délicieux.
Ça se peut que ça goûte un peu le chardonnay. Ça se peut qu'on ait l'impression un peu. Hein?
C'est vin blanc un peu.
Ouais. Oui, oui, oui.
Fût de chardonnay, tu trouves ça comment? Pourquoi tu choisis chardonnay plutôt qu'un autre?
Je les achète de chardonnay lui-même. Non, c'est pas vrai.
Johnny Chardonnay,
ben
sur
oui,
Charest.
Oui, oui,
oui, il y a une bonne chope.
Mais non, on les achète de revendeurs de barils. Il y a des gens qui rachètent des...
C'est des vignobles qui vendent leurs barils?
Oui, souvent, eux autres, ils les utilisent une couple de fois, mais il n'y a plus la part du bois qu'il y avait au bout de 4 ou 5 utilisations. Fait qu'ils revendent à des racheteurs qui font comme l'intermédiaire. Fait que soit que là je commence à connaître des vignobles, ils m'appellent directement quand ils se débarrassent de leurs barils.
On a un lot.
Mais sinon, mon revendeur, il y a comme Olivier Moreau qui est comme dans le coin de Donham, que lui, justement, il m'a vendu des lots de barils aussi. Sinon, c'est aussi des revendeurs de barils... En général, j'achète des barils plus de vin parce que je fais des bières, ben on fait des verres plus douces, plus alors que des barils de spiritueux, souvent c'est trop fort,
mm-hmm.
C'est comme trop puissant pour ce qu'on fait là.
Puis je pense comprendre, en tout cas, j'ai eu la chance de goûter quelques-unes des bouteilles que vous avez lancées depuis la dernière année, puis je pense que vous aimez les produits qui sont onctueux, qui sont riches, mais qui sont équilibrés, là, drette. C'est pas des saveurs extrêmes ni d'un bord ni de l'autre. Puis je pense qu'on a été habitués à ça un petit peu au Québec, tu sais, de l'extrême. On est flyé. Là, c'est le retour à l'équilibre, mais avec une richesse qu'on n'a pas souvent dans une bière. Puis je trouve vraiment que c'est des produits exceptionnels. À chaque fois que vous en croisez dans Trois Chaloux, là, vous ne vous tromperez pas. C'est une expérience gustative.
Bien, comme je te disais, moi, Paolo, mon partner, ça fait longtemps qu'on est amis, puis on a commencé ça ensemble, puis on s'estime sur tout, mais notre vision de la bière est la même, puis on met l'accent sur la buvabilité.
Ouais.
Pour nous, la buvabilité, c'est comme le crucial. Il faut là, absolument que ça soit très, très, très facile à boire.
Moi, j'ai l'impression que c'est comme un band où il y a des musiciens qui sont tous des fortes têtes puis qui s'ostinent sur des accords, ben, des guitares ou whatever. Mais vous chicanez sur quoi, vous autres?
Ah, sur tout. Paolo, c'est un personnage en couleur qui va s'estiner pour le plaisir. Là. Mais ça me fait vraiment plaisir. Mais souvent, les Européens, ils aiment ça, s'estiner. C'est le fun, genre. Puis ça, ils prennent pas mal. Puis moi, j'aime ça aussi. C'est super plaisant. Puis ça, en même temps, ça nous fait grandir. Puis ça, les bières, je pense qu'ils sont meilleures parce que, justement, on est rarement d'accord sur la manière de le faire. Mais finalement, on trouve un compromis.
C'est le fruit d'une collaboration, mais d'une argumentation
Un peu. Vraiment, mais je pense que ça rend les produits meilleurs au bout du compte.
Vous autres, vous êtes installés où? Vous êtes dans Limoilou?
Dans Limoilou, entre la 4e rue et la 5e rue, mais c'est ça, on n'est pas ouvert au public.
Pas pignon sur rue.
Non, c'est ça.
Ça fait-tu partie des objectifs à moyen ou long terme?
J'aimerais vraiment ça. Avec une formule comme un peu comme, je ne sais pas si vous connaissez, Hill Farmstead. Là,
très bien.
Tu réserves comme pour une session. Oui. Puis tu vas là, puis toi, tu peux goûter. Puis c'est comme plus facile à gérer. Puis ça prend moins de temps et d'énergie. Puis ça, j'aimerais ça à long terme.
Puis ça fait des belles expériences aussi. Puis nous autres, ben, les amateurs, ça nous permet de parler aux passionnés. Ouais. Ça nous permet de poser nos questions aussi.
À toutes les fois qu'on sort une nouvelle bière, c'est-à-dire une fois par mois, on ouvre au public, mettons, comme une journée à la fin de semaine.
OK.
Comme demain, c'est Eleanor qui va être là, on ouvre. Il n'y aura pas de nouvelle bière, mais tu sais, comme on essaie d'ouvrir au moins une fois par mois pour que les gens viennent voir, parler, nous parler.
Oh.
Puis aussi acheter des bières comme un peu moins chères qu'en magasin.
Je pense que la meilleure façon, c'est de vous suivre sur le Facebook
pour
avoir justement quand vous ouvrez la shop, quand il y a de nouveaux produits qui sont disponibles. Moi, c'est ça que je fais depuis un an.
Puis pour trouver les produits aussi, parce que en haut de la page, il y a une petite carte interactive pour avec nos détaillants.
Okay.
Pour trouver facilement les produits.
Ben merci beaucoup, Greg. Ça a été super le fun. Tu salueras Eleonore. C'est la première qui m'avait envoyé un message à un moment donné pour dire « Je pense qu'on est en train de faire quelque chose d'exceptionnel puis garde l'œil là-dessus. » Fait que tu salueras pour nous autres. Merci beaucoup d'être venu nous parler puis d'avoir tenté l'expérience avec nous autres.
C'était vraiment le fun.
Ouais.
Merci de m'avoir accueilli. C'était super.
Hey, checkez ça dans les Trois Chaloux de la grande région de Québec. Des produits Le Fol, c'est des grandes bouteilles. Vous allez les retrouver si en reste. Ça vaut vraiment le détour.
Vous avez quelqu'un qui aime moindrement les bons breuvages dans votre entourage, là, c'est un cadeau sure shot. Hein, des produits comme ceux-là, là, ils risquent de faire le saut en écoutant.
Les étiquettes sont bleues et blanches, ça c'est facile à trouver.
Exact. Ne dites plus jamais maître déchet. Dites plus maître chai non plus. On va dire que Greg brasse du bon stock. 15h45, on fait une courte pause, on revient. Vous êtes à Boulevard 102.1. Le week-end NHL.